Alors voici la suite de mon témoignage qui maintenant va se centrer non plus sur l'enfance ou sur ma période actuelle, mais sur mon adolescence, notamment autour de la première et de la terminale, mes années lycée en quelque sorte, et ma conversion. Donc cette étape de la vie, donc l'adolescence, est bien connue pour être difficile. Elle le fut donc pour moi. Avec l'adolescence survinrent les premiers malaises. Très vite, je me sentis affectivement pauvre. Je ne me sentais pas trop à ma place dans les relations parfois superficielles du flirt. Je recherchais déjà des valeurs telles que le mariage, la famille, etc. Un peu tôt à 15 ans, penseraient certains. Dieu m'était, je dois le dire, relativement indifférent à l'époque, même si ma scolarité, comme je l'ai déjà dit, se déroulait toujours dans un lycée privé à Belfort. Mon vide affectif, ma soif d'amour et d'absolu, tournait en fait à l'idolâtrie de la relation homme-femme, dont le mariage constituait l'aboutissement total. Cette conception ultra-romantique venait sans aucun doute du contre-exemple que représentait le couple de mes parents, qui s'entendait plus que mal. C'est le moins que l'on puisse dire. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais enfin, il est utile de le savoir pour bien comprendre ce qui m'est arrivé. Quoi qu'il en soit, cette idolâtrie ne faisait qu'exacerber mon vide affectif que seul l'amour pouvait combler. C'est en tout cas le chemin que Dieu utilisa pour me mener à lui. Comme toujours, Dieu tire du bien du mal, confère Genèse 50, verset 20. Et c'est dans l'abîme qu'il vient nous chercher, Dieu. Jamais rien n'est perdu pour Dieu. Mais je n'avais pas encore touché le fond de l'abîme. En première, à 16 ans, l'année précédant le baccalauréat, je me tournais vers la notion de Dieu par un chemin très progressif et très détourné. Je commençais à m'intéresser à la psychanalyse, analyse des rêves, Freud, etc. Mais ma soif d'amour, ou plutôt d'amour avec un grand A, creusa en moi cette soif d'absolu qui vous fait tourner la tête vers le ciel. Confère Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu, respectant nos maturations, lentes la plupart du temps, me laissa suivre mon propre chemin sans me perdre de vue. De la psychanalyse, je passais donc à la parapsychologie, cette science qui veut faire de vous des musclés des pouvoirs paranormaux. Cela devait être un moyen, pensais-je, de me conduire vers la voie de la revanche sur mes échecs et sur les autres. Je me souviens même de m'être adonné quelquefois au spiritisme, esprit es-tu là, et au magnétisme, pendule, etc. Ce n'était pourtant pas encore la prise de conscience de Dieu comme personne vivante et agissante. Celle-ci intervint, donc cette prise de conscience, après que je me rendis compte que la parapsychologie ne comblerait pas ma soif. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Les paliers vers Dieu n'étaient pas tous franchis. Psychanalyse, parapsychologie et enfin occultisme. L'occultisme devait être le dernier palier, la dernière marche vers ce Dieu vivant dont la Bible parle tant. L'occultisme, c'est un peu la version non laïcisée de la parapsychologie, mais c'est aussi le chemin inverse de la grâce, qui est mouvement, donc l'occultisme, c'est le chemin inverse de la grâce, qui est mouvement du haut vers le bas, de Dieu vers nous. Donc ça, c'est la grâce. Donc la grâce, mouvement du haut vers le bas, de Dieu vers nous. L'occultisme, c'est le mouvement inverse. C'est la tour de Babel, où l'homme cherche par ses propres forces à s'élever vers Dieu, comme tant de sagesse orientale. Donc vous voyez, ça m'a toujours frappé, le récit de la tour de Babel en Genèse chapitre 9. Vous avez ce mouvement de bas en haut, on essaye de s'élever vers Dieu, ça c'est l'occultisme et les religions orientales, alors que Dieu descend, c'est la grâce, mouvement de haut en bas. D'ailleurs, donc, l'occultisme et sa version moderne, New Age, ne sont, tout bien considérés, que des versions occidentalisées des religions, pardon, orientales, hindouisme, méditation transcendantale, zen, ainsi que certaines formes du bouddhisme. Pour la première fois, j'entendis tout de même parler de Dieu, comme d'un être qui pouvait apporter des solutions à notre mal de vivre. L'avantage de l'occultisme était qu'il présentait, en apparence, une image nouvelle de Dieu. Admirons là l'intelligence de Dieu, qui, à l'image des rois mages, donc conduit au Christ par l'intermédiaire de l'astrologie, pourtant défendue à juste titre dans la Bible, confère Deutéronome 18, versets 9 à 40. Donc je disais, l'intelligence de Dieu, donc qui, à l'image des rois mages, se sert de chemins bien peu orthodoxes pour contourner nos vaccinations à Dieu, que sont les fausses impressions que le Dieu des chrétiens n'a plus rien à apporter, qu'on le connaît trop, cathé, communion, messe, etc. Dieu donc m'a paru comme une nouveauté, comme quelqu'un digne d'intérêt. Le hic, c'est que ce Dieu, donc de l'occultisme, tout nouveau qu'il était, paraissait tellement inaccessible. Pour le rencontrer, il fallait en effet de multiples exercices spirituels, d'où Dieu était absent, pour s'élever telle la tour de Babel. La récompense de ces exercices si pénibles, dont seuls les élus pouvaient venir à bout, était la découverte de ce Dieu dans lequel nous nous fondrions pour nous perdre en lui à tout jamais. C'est le concept du nirvana. L'échec de la pratique de ces exercices pouvait, selon les occultistes eux-mêmes, conduire à la folie ou à la possession. Triste perspective pour celui qui recherchait en ce nouveau Dieu si indifférent la satisfaction de sa soif d'amour. Autre sujet de déprime pour moi était l'idée que pour parvenir à ce nirvana, il faudrait probablement plusieurs vies, donc les réincarnations. Je n'étais donc même pas moi en cette vie. Dieu ne m'aimait pas par conséquent comme un être unique, son unique. Dans ces circonstances, il ne fut pas étonnant qu'en terminale, 17 ans, la classe préparatoire au baccalauréat, l'angoisse de la mort me saisit, d'autant que les cours de philo portaient justement sur ce sujet. Cette angoisse me saisit en un instant dans un bus. Tout à coup, cette pensée me traversa et s'ancra en mon âme. Je suis jeune, 17 ans, et pourtant, je pourrais mourir à n'importe quel moment, accident, maladie, etc. Ma jeunesse ne me garantissait pas de mourir dans 50 ou 60 ans, le temps qu'il fallait pour voir venir la mort en profitant à fond de la vie, ce qui pour beaucoup d'entre nous veut dire en se passant de Dieu. De toute façon, la pensée que ma vie en ce monde se terminerait irrémédiablement par la mort me devint insupportable. En un mot, la mort me révoltait, peu importe l'âge auquel je devais mourir. La dépression se fit violente, même si mes parents ne virent rien, mais au fond de moi-même, le goût de vivre était parti. Mais grâce à Dieu, discrètement en mon cœur, ce mal devait servir à m'ouvrir les yeux sur la vanité de l'occultisme, du yoga et de toute religion orientale. En effet, dans ces terribles moments de solitude face à moi-même, la perspective de devoir se débrouiller seul pour se hisser vers un Dieu indifférent à nos misères ou trop rigide sur son principe de non-interventionnisme dans les affaires humaines ne m'aidait pas franchement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me sentais seul et abandonné de ce Dieu froid qui, en définitive, fut inventé pour servir de faire-valoir à l'orgueil des hommes, c'est-à-dire à leur fierté de s'élever par eux-mêmes vers le ciel. J'en reviens encore au récit de la tour de Babel. Je ne trouvais plus le sommeil, tiraillé par l'angoisse. Je me souviens même avoir entendu des voix, ce qui ici était plutôt signe de déséquilibre profond, et j'irais jusqu'à dire de trouble, d'où le démon n'était pas tout à fait étranger. Je vais passer maintenant à cet épisode crucial de ma vie, la conversion. Comme je l'ai déjà dit, Dieu se sert de chemins bien sinueux pour nous conduire à lui. Ces chemins ne sont pas aussi droits qu'il serait souhaitable, mais c'est le prix à payer pour le respect de notre liberté, de nos réticences, etc., par ce Dieu si doux et aimant. Donc, comme si souvent, c'est au creux de la vague que Dieu nous prend et nous élève vers lui, confère psaume 10, verset 14, histoire que nous sachions, dans notre moi profond, d'où nous venons et ce que Dieu seul peut faire pour nous. Ainsi, c'est vraiment librement que nous accepterons sa main et sa direction dans l'avenir. Cela restera pour moi un souvenir indélébile. Je veux parler du souvenir de ma conversion, qui, contrairement à beaucoup, fut brusque et datable. Pas si brusque, puisque, comme j'ai déjà dit, donc dans les profondeurs de l'enfance ou l'humble semence, Dieu travaillait déjà en amont dans le secret de mon cœur. Stratégie divine typique. Mais enfin, on pourrait dire qu'elle est, en apparence, elle a été brusque. C'était une nuit de décembre 1983. Dieu me prit en un instant, voici comment. Comme depuis plusieurs mois, ma nuit s'annonçait pareille à toutes les autres, c'est-à-dire entachée d'insomnie, angoissée. Mais ce soir-là, quelque chose changea tout à coup. Cette pensée fit irruption dans mon esprit. Pourquoi aller chercher loin ce que j'ai si près de moi? Je veux dire, le Dieu de mon enfance, celui dont ma mère me racontait les histoires dans la voiture. Je vous l'avais dit qu'il en reste toujours quelque chose. Oui, le Dieu des chrétiens, celui de l'Église, était peut-être plus que ce Dieu enterré au sépulcre le vendredi saint. Oui, il était temps de prendre au sérieux la résurrection du Christ avec tout ce que cela implique. Le Dieu de Jésus était vivant. Il n'était pas qu'une vieillerie à visiter dans les églises, telle une antiquité dans un rayon poussiéreux d'un brocanteur. Un autre flash me revint. Je me rappelais d'un film qui m'avait beaucoup marqué quelques années auparavant. Je veux parler de Covadis, Peplum américain de Robert Taylor et Deborah Kerr. Ce film m'avait interpellé et ce soir-là, je me suis surpris à penser que le christianisme ne pouvait pas être mort et enterré, étant donné le nombre de martyrs qu'il avait engendrés. Tant d'hommes et de femmes étaient morts pour Jésus, ils ne seraient pas morts pour une idée creuse. C'est à partir de cette nuit-là que Jésus devait être un ami, un sauveur, un Dieu, bref, une personne. Quelques minutes après cette révélation, je m'endormis dans une paix que je n'avais pas connue depuis bien longtemps. En fait, je devrais dire que je n'avais jamais connue. Révélation subite, voire spectaculaire, me direz-vous. Pas tant que ça, car dès l'enfance, Dieu travaillait discrètement dans mon intérieur, comme je l'ai déjà dit. La grâce, par les chemins sinueux du respect de la liberté humaine, avait enfin atteint son but. De l'inconscient de mon être, Dieu s'était frayé un chemin vers ma conscience, ou plus exactement, en prenant appui sur son amour aimant et patient, qui avait germé lentement mais sûrement en moi, Dieu surgit quand les temps furent mûrs en ma conscience. Confère Marc chapitre 4, versets 2 à 26 et 26 à 34. De cette expérience, je fis un poème de louange, sans prétention, plus tard quand j'étais étudiant. Si le cœur vous en dit, vous pourrez le lire, il s'intitule La Grâce, vous le trouverez donc sur la version écrite. Donc, fin de la partie qui concerne ma conversion. Maintenant, je voudrais aborder ce qui a suivi, donc de l'occultisme au christianisme, donc les moments après ma conversion. Que j'admire Dieu pour sa délicatesse, pardon, cette période en est la preuve. Je ne suis pas devenu chrétien catholique convaincu du jour au lendemain. Mon âme avait été tellement contaminée par le venin de la parapsychologie et de l'occultisme que je ne pouvais pas tout de suite manger de la nourriture solide. Confère 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Il me fallait un lait de transition. On ne peut passer de l'enfer au paradis en un clin d'œil. Il faut un purgatoire où nous laisser purifier librement en douceur. Dieu mit alors sur mon chemin des livres que je qualifierais de semi-chrétiens. Il parlait encore d'inconscient, subconscient, etc., mais en mentionnant Jésus et le Dieu chrétien. Certes, il présentait encore une foi très individualiste, sans aucune dimension communautaire ou ecclésiale, dépeignant Jésus plus comme un guérisseur que comme une personne à aimer et à servir. Mais ils eurent le mérite, ces livres, de consolider en moi les prémices de conviction que Jésus était vivant et qui pouvait fournir une réponse à mon mal-être. En quelque sorte, Dieu avait utilisé les moyens que j'avais mis à sa disposition pour toucher mon cœur, un peu à l'image de ce qu'il fit pour les mages, les rois mages dont j'ai parlé il y a peu de temps. Donc ces mages qui vinrent se prosterner devant Jésus, guidés par une étoile qu'ils trouvèrent dans l'astrologie, pourtant si loin de la vraie foi. Confère Matthieu chapitre 2. Donc ici, je voudrais maintenant aborder la dernière partie de cette partie donc consacrée à l'adolescence et à ma conversion, qui est « Découverte de la Bible, un piège ?» point d'interrogation. Donc, quelques mois après ma conversion, s'éveilla en moi, comme chez beaucoup de convertis, une grande soif de lire la Bible. Je dois dire que là aussi, Dieu se servit de moyens peu orthodoxes pour me conduire vers la vraie foi. Dans la ville où j'habitais à l'époque, Belfort, environ 50 000 habitants, il n'y avait pas, à ma connaissance, d'énorme occasion d'étancher cette soif, et ce, même dans le lycée privé où j'étais. Je rêvais de partages bibliques, d'explications simples, voire simplettes, le type même d'explications que l'Église ne pouvait pas fournir. Je parle d'explications simplettes, bien sûr. Les seules personnes qui alors se présentèrent à moi furent les témoins de Jéhovah. Leur foi, si biblique en apparence, leurs réponses carrées, qui ne laissent aucune place à une réflexion personnelle profonde, semblait idéale pour un débutant dans la foi. Leur critique systématique de l'Église catholique ne me gênait pas à l'époque, ma foi catholique étant si superficielle comme beaucoup malheureusement. Pas étonnant qu'avec un terreau si propice, les témoins de Jéhovah firent mouche. Je leur demandais de revenir pour des études bibliques. Je leur achetai même un livre présentant leur doctrine. Il devait servir de base à nos cours, entre guillemets. Je fus littéralement charmé par ce livre. Je crois qu'il s'appelait « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis ». Les images étaient d'une beauté si simple, les explications si simples ou simplettes. Bref, ce qu'il me fallait, une fois bien empaqueté et ficelé. Il ne me restait plus qu'à croire aveuglément, sans avoir à me poser de questions fondamentales. Oui, mais voilà, étant curieux de nature, et d'aucuns diront un télo, ce qui ici fut une qualité, puisque cela me pousse à réfléchir, à analyser, à aller voir ailleurs donc, je disais, étant curieux, je ne me suis pas contenté d'une seule source pour étancher ma soif. En premier lieu, il y avait toute mon éducation catholique, superficielle certes, mais présente tout de même. Elle me protégea de rejeter la foi de mon enfance. Je fréquentais donc plus assidûment les cours de cathé dans mon lycée privé. Je fus déçu côté étanchement de ma foi biblique, de ma soif, pardon, biblique. J'allais à la messe le dimanche dans un esprit réceptif, surtout pour les lectures et les sermons. Je me mis à aller au temps de prière organisé par le lycée. Ensuite, je découvris une radio qui m'aida vraiment à étancher ma soif biblique sans me laisser prendre dans les filets des témoins de Jéhovah. Il s'agissait de Radio Évangile. Cette radio diffusait en soirée, puis tôt le matin par la suite. Elle était hébergée par Radio Monte Carlo. Les émissions étaient animées par des protestants réformés, voire évangéliques ou baptistes. Je me mis à écouter ces émissions avec une assiduité toute frénétique. Que j'aimais entendre d'autres chrétiens commenter la Bible. Ces chrétiens avaient une foi si biblique, mais à la différence des témoins de Jéhovah, la réflexion me semblait poussée dans l'analyse des textes. Les animateurs ne se contentaient pas de réciter bêtement des réponses préfabriquées par les grands pontes de Brooklyn. C'est là où se trouve le siège des témoins de Jéhovah. De plus, la variété des émissions, la diversité des animateurs contribuaient à former la foi par les différents angles qui étaient proposés dans ces programmes. Mon intelligence était sollicitée de par la diversité même des sujets et des approches, qui cependant étaient loin d'être contradictoires. Ce fut aussi l'occasion, pour moi, de découvrir que l'action, la charité, pouvait être réellement nourrie par la lecture de la Bible. Il y avait en effet des témoignages de personnes impliquées dans la vie caritative. À noter pourtant que déjà à l'époque, je remarquais furtivement que la grande liberté des protestants par rapport à la Bible ne présentait pas que des avantages. Je me souviens que lors d'une émission, un des animateurs affirma même que dans la Trinité, il semblait y avoir une hiérarchie avec le Père au-dessus du Fils. Évidemment, avec le recul, je me rends compte qu'un animateur catholique n'aurait jamais pu dire une chose pareille, tout simplement parce qu'il aurait été averti par la tradition de la fausseté et du danger d'une telle croyance. Pour voir la fausseté et le danger d'une telle croyance, je vous conseille d'aller voir sur mon site la page consacrée au Concile de Constantinople II, l'origénisme. Mais rendons justice à ses frères dans la foi, donc les protestants, ils me furent d'une aide si précieuse. Enfin, l'aide la plus musclée que je reçus pour ne pas devenir témoin de Jéhovah vint de ma mère, qui purement et simplement pria les témoins de Jéhovah de ne plus m'importuner. J'étais encore mineur, 17 ans, ils n'eurent plus qu'à s'incliner. Sur les temps passants, je ne suis pas sûr qu'à l'époque j'appréciais l'aide apportée par ma mère à sa juste valeur. Quoi qu'il en soit, mon flirt avec les témoins de Jéhovah fut bel et bien terminé. J'allais vraiment faire la découverte de mes frères protestants. Bientôt, en effet, j'allais les rencontrer en chair et en os, si je puis dire. Donc, de cette année de terminale au lycée, je retirai donc une foi chrétienne purifiée de toute parapsychologie et de tout occultisme. Les témoins de Jéhovah et les émissions de Radio Évangile m'y aidaient très efficacement. Autre caractéristique qui ne devait plus jamais me quitter, une foi chrétienne authentique ne pouvait pas ne pas se nourrir d'une lecture régulière et priante de la Bible. Depuis ce temps, la Bible ne me quitta plus jamais. Dans mon cas, cette semence biblique fut plantée et arrosée par Dieu, évidemment, mais il utilisa un moyen bien peu orthodoxe pour la planter, cette semence. Je veux dire par là les témoins de Jéhovah. Quant à l'arrosage, il se servit et devait se servir encore pendant plusieurs années des protestants. Donc, fin de cette partie consacrée à ma conversion et à l'adolescence.